Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être de retour en direct, rien que pour vous. Radio Foot, de retour comme l'hymne de la Ligue des Champions. Il a résonné dans le nord de Londres ce mardi. De retour enfin, la jeunesse triomphante et séduisante de l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais ne veut pas que sa belle histoire européenne s'arrête. Victoire 1-0 sur le terrain de Tottenham en demi-finale. Allez, une rencontre suivie goulûment par nos visiteurs du soir. Bonsoir Patrick Juillard.
Bonsoir Hugo, je croyais que vous parliez de moi quand vous évoquiez la jeunesse triomphante de retour. C'est un peu trompeur.
Je vais essayer de changer de sujet de manière assez subtile. Bonjour David.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Je plaisante mon cher Patrick. Vous êtes toujours bien. Triomphant, jeune ou pas là jeune, là. C'est pas très, très important, vous êtes jeune dans votre tête.
C'est le plus important.
C'est ça qui compte. À votre place autour de la grande table de Radio Foot était assis tout à l'heure Joseph-Antoine Bell, la légende camerounaise, Bruno Constant, Shérif Guémour ou encore Alejandro Valente. Avec eux, nous avons parlé Première Ligue, c'est également au sommaire de cette émission. Pour parler de City qui mène la danse et de Liverpool qui suit de très très près. Nous avons également parlé du championnat espagnol, fin du suspense, le Barça est champion comme d'habitude ou presque. Et puis coup de projecteur en fin d'émission sur Stéphanie Frappard, devenue la première femme arbitre d'un match de Ligue 1, c'était ce week-end. C'était la rencontre entre Amiens et Strasbourg. L'arbitre de Radio Foot ce soir, Laurent Salerno, bien aidé par David Finzel pour m'aider à préparer cette émission tardive. Et c'est un plaisir de rester là pour vous. Radio Foot, c'est parti. Oui, c'est allé assez vite, ce résumé. Un seul but, il est intervenu rapidement au quart d'heure de jeu. Van de Beek qui trompe Hugo Lloris, bien servi. Van de Beek très très bien servi même par le Marocain
bien,
Hakim Ziyech.
Bien le mot est faible,
lumineux. Caviar, passe lumineuse d'Hakim Ziyech, le Marocain, pour décaler Van de Beek dans la surface. Il ajuste Lloris après... Une très jolie fin de frappe, vous avez apprécié ça, Nabil.
Mais quel sang-froid, c'est incroyable. On oublie que ces joueurs étaient encore, excusez-moi, sans leur manquer de respect, quelque part anonymes à l'échelle européenne. Je veux dire, c'est pas des stars, entre guillemets, ou c'est pas des joueurs confirmés. C'est pas Sanchez, c'est pas Pogba, c'est pas Hazard, c'est pas Mané, c'est pas Salah. Je veux dire, en début de saison, oui, Hakim Ziyech, international marocain, nous on le connaît parce qu'on suit l'Afrique. Oui, De Jong, on en aura vaguement entendu parler. Onana, on sait très bien qu'il joue avec le Cameroun, mais aussi jeune, autant de sang-froid en demi-finale d'une Ligue des Champions, parce qu'il y a la qualité de la passe qui est absolument mais exceptionnelle de la part d'Hakim Ziyech, ouais, il y a une main à la place du pied, mais Van de Beek là, il fixe, il regarde, il termine comme un vieux briscard. C'est ça qui est étonnant, c'est une équipe qui est étonnante de maturité. Elle est à la fois insouciante, mais ce n'est pas que de l'insouciance. Elle a une maîtrise technique, une maîtrise individuelle chez beaucoup de ses joueurs qui me font penser qu'on est vraiment une cuvée absolument exceptionnelle du côté de l'Ajax d'Amsterdam.
Alors, insouciante, exceptionnelle techniquement, mais gestionnaire. On va faire un petit peu le film du match, Patrick Juillard. Juste avant, on va écouter Moussa Sissoko, l'international français, entré en cours de jeu. Ça, c'est important aussi pour bien comprendre quelle a été la physionomie de la rencontre. On l'écoute d'abord. Réaction à chaud recueillie par nos confrères d'RMC Sport, Moussa Sissoko.
L'entame de match n'a pas été bonne de notre part. On était peut-être intimidés par l'enjeu. Je pense qu'on n'était pas assez agressif, on n'était pas sur le batteur du ballon et on n'a pas joué notre football. Donc, après, voilà, malheureusement pour nous, il y a Yann Matrogan qui est sorti sur blessure. Donc, j'espère que c'est pas trop grave. Et je suis rentré en jeu. Donc, j'ai essayé de ramener de l'impact parce que je pense que c'est ce qui nous manquait. Et après, je suis sur mes qualités. Donc, en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Je pense qu'on aurait pu encore mieux faire, mais bon. Voilà, ce soir, c'est dommage de perdre ce match et surtout d'avoir encaissé ce but à domicile parce qu'on sait que c'est très important de ne pas encaisser de but. Mais bon, il y a encore une deuxième manche. On va essayer d'aller là-bas, tout faire pour prendre la qualification.
Bon, on devrait l'embaucher comme consultant radio foot, voire comme journaliste au service des sports de Radio Sassoko. Il vous résume le match. Donc, comme promis, je vous fais réagir Patrick Juvert. Je vous donne la parole, bien sûr, après Nabil. Ça démarre mal pour Tottenham. Il entre, réorganisation tactique. Ça va un petit peu mieux. Ça va même beaucoup mieux pour Tottenham en deuxième période. Et l'Ajax montre un autre visage plus gestionnaire. Voilà. Est-ce qu'on est bon là ?
On est d'accord. Alors, c'est vrai que la rentrée de Moussa Sissoko, qui n'était pas prévue, il rentre suite à la blessure de Vertonghen qui est sorti la tête en sang et il pouvait plus continuer. Et ça a permis de remettre une sorte de double verrou au milieu avec Wanyama, que je trouve un peu sous-évalué. On parle jamais de ce joueur, mais il a un gros abattage et il fait beaucoup de bien au milieu. Et Sissoko qui a été un peu la deuxième lame. Et ça a permis un peu de dégager les bronches de Tottenham. Malheureusement, il a manqué à cette équipe l'efficacité. On l'a vu sur deux têtes d'Alderweireld, on l'a vu sur une tête de Dele Alli en deuxième période. Et à la force de ne pas concrétiser ses temps forts, Tottenham s'est un peu usé physiquement. Mais effectivement, vous l'avez dit à juste titre, on a vu que l'Ajax n'était pas juste une équipe qui était bonne avec le ballon. On a vu qu'il savait défendre, il savait défendre à plusieurs. Et on a vu du dépassement de fonction chez les joueurs offensifs. Parce que Ziyech, on parle de sa passe, qui est fabuleuse effectivement et qui éclaire le jeu. Mais on lui a vu faire des efforts défensifs, du repli, du harcèlement dans son camp quand Tottenham avait le ballon, qui a beaucoup aidé son équipe. Et ce n'est pas le seul. Donc ça montre que cette équipe, c'est vraiment un collectif sans faille. Et alors, on n'a pas vu son visage le plus glamour ce soir, à part dans les 20 premières minutes.
Oui, c'était pas mal quand même.
Oui, c'était pas mal quand même, mais après, il a manqué, pour que le match soit parfait, il a manqué que Neres ne marque son occasion, qu'il met sur le poteau en faisant un intérieur du pied
et
un
ça,
peu
c'est
mou.
En fin de seconde période, et ça aurait clairement.
Avec un pointu, il aurait peut-être marqué, mais c'est trop tard. Mais voilà, mais c'est quand même une maîtrise froide pour une équipe aussi jeune, quoi. C'est fantastique.
Une petite statistique peut-être éclairante. En première mi-temps, on a 3 occasions pour Tottenham, 4 pour l'Ajax. Oui. Donc une domination de l'Ajax. En deuxième mi-temps, on a 10 occasions pour Tottenham, 7 pour l'Ajax. Donc on voit bien que Tottenham a repris, a pris le dessus clairement en seconde période. En revanche, au niveau des tirs cadrés, on en a 2 pour l'Ajax en première période. On reste à 2 en fin de partie. Et côté Tottenham, on passe à un seul tir cadré en deuxième période. Il n'y en avait pas eu en première période. Bref, en gros, Tottenham a manqué de précision.
Il a manqué de précision, mais c'est tout à fait normal, mon cher Hugo. Mais on verra de façon au match retour, puisqu'il y aura un des deux hommes importants de la saison de Tottenham qui est de retour. Quand vous perdez, Harry Kane, qui est aujourd'hui le meilleur attaquant anglais, et quand vous perdez aussi un garçon qui a été déterminant, notamment face à Manchester City, qui est Son, vous êtes quand même forcément désarmé. Et vos statistiques s'expliquent en partie, pas totalement, parce que Llorente, c'est aussi un joueur de foot de haut niveau. Lucas aussi a des qualités. D'ailleurs, replacé dans l'axe, il est bien meilleur. Mais c'est vrai qu'ils ont pêché.
Sissoko aussi.
Ouais, ils ont pêché effectivement dans la finition. Ils sont créé davantage de situations, mais des situations aussi à l'énergie. Là où, à mon avis, ils auraient pu plus les inquiéter, mais ça a été le cas. Ils ont été quand même dominants dans le jeu aérien.
Mais oui.
Il aurait pu y avoir davantage de centres. Mais la réorganisation tactique, c'est-à-dire que quand on passe d'un 3-5-2 à un 4-4-2, il y a moins d'utilisation des couloirs, et notamment Trippier, qui est dans ce rôle-là préférentiel, a lui, pour le coup, reculé d'un cran. Donc, je pense que c'est tous ces facteurs qui expliquent partie.
Le peu de fois où Danny Rose ou Trippier sont montés, le dernier geste n'était pas là non plus. Il y a eu pas mal de remises de centres imprécis. Donc, à la fin, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Les meilleures occasions, c'était souvent des coups de pied arrêtés.
Est-ce que les mauvaises performances d'Eriksen et Dele Alli, qui sont quand même les maîtres d'œuvre techniques de cette équipe, n'expliquent pas aussi en partie cette Bah, inefficacité.
Alors en partie, mais je pense que Sissoko et Wanyama ont quand même compensé à l'énergie un peu l'apport technique déficient des deux joueurs que vous avez cités. Dele Alli, on l'a vu des fois faire tenter des gestes difficiles, comme des ailes de pigeon qui servaient pas à grand chose, parfois les réussir mais pour rien, et après il rate des passes à 4 mètres, donc ce joueur est un peu énigmatique. Il a une occasion énorme, il est servi de la tête, il la met au-dessus. C'est quand même, ça devient un peu, ce joueur devient quand même un peu épuisant à regarder. C'est-à-dire, on voit un énorme potentiel et pas grand-chose à l'arrivée, quoi.
On en revient peut-être à l'Ajax, donc le vainqueur du soir. Est-ce que les Néerlandaises ne sont pas eux aussi responsables du caractère un peu inoffensif d'un Tottenham dominateur, mais incapable de trouver la faille? Est-ce que c'est pas aussi cet aspect gestionnaire qu'on évoquait tout à l'heure?
Très sincèrement, moi je
vais vous dire, montrer une maîtrise tactique.
Ouais, bon, par la force des choses, mais s'ils avaient pu continuer à jouer, ils auraient joué parce que c'est dans leur ADN. Moi, je pense qu'ils ont subi physiquement la réorganisation tactique. L'entrée de Sissoko a été déterminante, notamment avec Wanyama, parce qu'ils ont apporté de l'impact, de l'intensité, et ils ont bousculé ces jeunes joueurs néerlandais. Après, là, voilà, il faut pas oublier, je veux dire, autant ils ont été exceptionnels contre le Real et la Juve, mais il faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui est jeune, pas forcément toujours régulière. Non. En fait, on a l'impression qu'on attend d'eux que ça soit le Barça à tous les coups. Je veux dire, il y a un moment, il y a aussi des adversaires.
Le Barça d'il y a 10 ans, voilà, parce que le Barça de cette année, ils sont
déjà
au-dessus.
Oui, mais alors là, justement, ma question, c'était, est-ce qu'ils ne nous ont pas montré un autre visage, plus proche, par exemple, d'une équipe comme la Juventus ou l'Atlético? Alors, je prends des exemples un peu extrêmes, mais est-ce qu'ils n'ont pas montré une maîtrise intéressante, justement?
Oui, intéressante, surtout qu'elle révèle et met en valeur et en perspective d'autres secteurs de joueurs et d'autres joueurs, puisqu'on parle toujours un peu des mêmes, Ziyech, Tadic, Neres, Van de Beek. Là, on a vu que la charnière centrale, De Ligt, Blind, c'était quand même solide. Moi, j'ai beaucoup apprécié la sérénité que dégageait Onana, même si pour moi, il n'a pas été mis en danger d'une manière absolument incroyable, mais
même Veltman aussi a été bon. On n'en parle jamais, mais il a fait quelques sauvetages bien tranchants, bien déterminants.
Et après, c'est tout un collectif qui a travaillé ensemble. Quand Patrick dit que Ziyech, effectivement, bah Ziyech, c'est pour mettre le bordel, excusez-moi l'expression, dans les 30 derniers mètres, mais les replis défensifs qu'il a fait, les ballons qu'il a récupérés, l'entrée tactique aussi de Mazraoui, le Marocain, capable de jouer latéral droit, qui est rentré au milieu de terrain, qui a apporté aussi.
Il a colmaté des brèches
par son volume, c'était intéressant. Et finalement, ce qu'on a vu aussi chez cet Ajax, même si c'est loin d'être terminé, c'est que c'est une équipe qui a aussi des facultés mentales. Alors, on dit souvent que les Pays-Bas, c'est l'autre pays du fromage. L'Ajax,
c'est l'autre pays du football aussi.
Pardon ?
C'est l'autre pays du football.
C'est l'autre pays du football aussi, mais on a vu aussi que cet Ajax-là, c'était aussi l'autre pays de l'émental.
Parce que ce soir, c'était un peu une demi-finale entre le pays du football et l'autre pays du football. Puisque si vous regardez bien, il y a l'Angleterre, mais les Pays-Bas sont à la base aussi du jeu du Barça. Enfin, ça a essaimé un petit peu tout
pays
ça.
Pays du football total,
voilà,
en tout cas.
Moi, je suis d'accord avec Nabil, on a vu des facettes qu'on avait moins vues précédemment, des qualités de cette équipe. Quoi.
Et notamment donc, des qualités défensives, et à la tête, entre guillemets, de cette défense, il y a le portier camerounais Onana. On l'écoute, c'est bien fait.
C'est bien produit.
Ça n'a pas été facile. On a été meilleur que Tottenham en première manche. On a eu l'opportunité de marquer et nous l'avons fait. En deuxième temps, on a souffert. Ils ont poussé. On a su souffrir. On a défendu. Et je suis content du résultat et satisfait du travail de l'équipe. Et cette équipe, elle est jeune. Elle a un peu d'expérience. Sans doute, faut oublier que 2 ans plus tôt, c'est cette même équipe qui a joué la finale de Europa League. Et après, avec des matchs aussi, on apprend, on grandit comme joueur et personne. Et le plus important, c'est le résultat qui est satisfaisant de notre côté. Et maintenant, il faut se préparer pour les échéances à venir.
André Onana, le portier camerounais de l'Ajax Amsterdam, qui dit quelque chose d'intéressant. On a un peu caricaturé cette équipe comme étant, vous le disiez, une association de jeunes joueurs un peu fougueux. Bon. Il y a de l'expérience. Déjà, il y a des joueurs qui ont été en finale d'une Coupe d'Europe, comme il le rappelle bien, en 2017, dont lui. Et puis, il y a des joueurs d'expérience tout court dans
Blind,
cette équipe, Blind ou Tadic, qui sont plutôt
Cheneux,
qui sont des trentenaires. Est-ce que là, on n'a pas cette demi-finale allée, elle n'a pas révélé toute l'étendue de la palette néerlandaise? Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la fougue.
Oui, évidemment. Alors, mais ce que ça révèle, c'est que cette équipe principales candidates pour gagner la Ligue des Champions. Quoi. Il faut juste le réaliser.
Donc ça, vous pouvez l'affirmer ce soir.
Ah bah, de toute façon, là où elle est aujourd'hui, on ne peut pas penser à autre chose. Quoi. Je veux dire, c'est difficile. On a eu plus que des prémices. Quand tu sors la Juventus de Turin avec M. Cristiano Ronaldo, quand tu sors le Real Madrid tenant du titre, certes en convalescence, plus ou moins malade, mais que tu vas gagner chez eux 4-1, mais je veux dire, qu'est-ce que tu es sinon un des favoris en puissance de cette compétition.
Et moi, je pense que surtout, ils profitent, alors ça n'enlève rien à leur mérite, mais ils profitent du fait que pas mal de grosses équipes soient un peu dans un creux. Le Bayern Munich ne fait pas une grande saison, le Real est en fin de cycle. Je pense, on verra demain, mais le Barça bénéficie d'un Messi qui est stratosphérique, mais collectivement, ce Barça-là n'est pas le meilleur Barça de ces 10 dernières années, loin de là. Et Manchester City, encore une fois, ils n'ont pas franchi le cap des quarts de finale. Donc, je pense qu'il y a une fenêtre de tir réelle pour eux année.
Ça ressemble à l'équipe de 95, avec, en quelque sorte, la génération qui a gagné.
Non, mais,
je veux dire, il y a des éléments expérimentés. Il y avait Bogarde, je me souviens, Van der Sar, qui avait un joueur par ligne.
Il y avait Rakyard et Blind Père, encadré les Kluivert, les Seedorf.
C'est exactement.
Bergkamp, peut-être pas.
Je dis pas que l'histoire va bégayer une seconde fois. Mais c'est à peu près, il y a une symétrie, quoi. Il y a des échos du passé.
Mais ça paraît improbable qu'une équipe avec ce budget-là et ces moyens-là arrive jusque, bon là, ils sont en demi et arrivent jusqu'en finale. Mais en fait, il y a parfois des appels d'air comme ça. C'est comme quand Leicester avait été champion d'Angleterre. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est cohérente, bien constituée, mais qui, sur le papier, avant le début de la saison, on dirait, bon, ils sont vers la 10e place, 12e. Et finalement, ça monte jusqu'au titre par une dynamique. Et l'Ajax, on sent que c'est un peu ça. Après, ce que dit Nabil Everest, on dit toujours que pour qu'une équipe de jeunes réussisse, il faut un vieux briscard par ligne. C'est ce qu'a fait Lille cet été, après avoir fait une équipe 100% jeune, prospect, ils ont mis l'expérience dans toutes les lignes, et c'est ce que l'Ajax fait cette année.
C'est comme dans cette émission.
À une autre échelle.
Comme dans cette émission, il faut un vieux briscard dans l'émission pour que cette émission réussisse. On ne dira pas qu'il y a le vieux briscard.
y a-t-il un jeune pour faire contrepoint? C'est
une vraie question, mais David Finzel est effectivement derrière la vie.
D'accord. Que c'est lâche. Je ne serai jamais champion d'Europe
en
produisant de telles bassesses. Il parle du fait de souffrir, Onana. Ça aussi, c'est intéressant. Ça rejoint ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure. Cette capacité mentale à subir les assauts, à ne pas se désolidariser. Ça, pareil, c'est peut-être pas un point sur lequel on avait beaucoup insisté, cette capacité mentale.
Parce qu'ils nous ont donné jamais l'impression de souffrir. Et face à Tottenham, vous avez raison, en seconde période, ils ont été mis en difficulté. Et c'est la première fois qu'on les voyait dans une telle séquence, même si face à la Juventus de Turin, il y a eu aussi quelques moments un peu difficiles. Mais finalement, on se rend compte que cette équipe, elle ne perd absolument pas ses moyens.
On l'avait déjà vu, ceci dit, mener à domicile contre la Juve, Juventus, ils parviennent quand même à renverser la vapeur. Le Real, ils perdent à domicile, ils renversent la vapeur au retour.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un plan aussi quand ils n'ont pas le ballon. C'est une équipe qui a, évidemment, on voit bien le plan de jeu quand elle a le ballon, sa maîtrise technique, les mouvements, la coordination. On le voit sur la page de Ziyech sur le but, il est à un millimètre d'être hors-jeu. Mais il ne l'est pas parce qu'on sent que ça a été répété, cette combinaison.
Passe,
elle sort pas de nulle part.
Fabuleux.
Le timing de la passe, c'est quelque chose qui... On sent qu'il y a du travail, il y a du talent pour la réalisation, mais dans le moment et la décision, il y a du travail. Mais il y a aussi du travail sans ballon, et on l'a vu ce soir. Donc c'est pour ça que, même si le score il n'est pas très large et que ça n'enlève pas toute chance à Tottenham pour le match retour, hein, mais ça montre les ressources qu'ils ont montrées sur d'autres plans que la technique et la possession, montrent qu'ils peuvent aller loin.
C'est pas terminé. Hein. Moi, c'est ce que je pense.
Alors voilà, j'allais vous demander de vous projeter sur le match retour.
Je pense que justement, ce serait le piège pour. Déjà, c'était un match piège par rapport au Real et à la Juve. On a l'impression effectivement que Tottenham c'est moins fort et ça l'est. Donc ça, déjà, ça pouvait être un piège puisque l'Ajax était plus ou moins dans la peau du favori entre guillemets dans cette histoire. Moi, je pense que le retour de Son notamment est à vraiment surveiller de très près. C'est un garçon qui réussit une saison absolument exceptionnelle. Je vous rappelle qu'il a quand même à lui tout seul mis au supplice la défense de Manchester City avec deux buts coup sur coup. Il est capable de tout. Lui, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Et ce soir, Tottenham a aussi démontré des ressorts psychologiques avec une réaction de groupe. Et des garçons comme Sissoko, qui n'ont pas débuté titulaire ce soir parce qu'ils revenaient de blessure, seront, à mon avis, opérationnels pour le match retour. Moi, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent et c'est loin, loin d'être terminé, cette histoire.
Alors, laissez-moi juste vous dire que sur 17 précédents en demi-finale de Ligue des Champions, seule une équipe est parvenue à se qualifier pour la finale après avoir perdu le match aller de la demi à domicile. Et c'était l'Ajax Amsterdam en 1995-96, ouais. Donc l'année qui a suivi la dernière victoire en Ligue des Champions du club.
Et puis ce
club.
Soir, je suis désolé, Pochettino, même si c'est une défaite, il y a des enseignements pour lui. En passant en 4-4-2, notamment en étouffant le milieu de terrain, en verrouillant.
La paire Wanyama-Sissoko est meilleure que l'un des deux tout
voilà,
seul.
Donc ça donne peut-être, non pas le remède, mais ça donne des solutions et des idées pour mettre en difficulté cette équipe de l'Ajax.
Un mot rapidement justement sur Victor Wanyama, parce que c'est pas forcément l'Africain évoluant dans un grand club européen dont on parle le plus, mais il est précieux et on le verra à la CAN, hein, capitaine.
C'est intéressant parce qu'il avait peu joué cette saison et il revient à la faveur de quelques absences et il est vraiment à la hauteur. Il a même marqué en championnat il y a quelques semaines un beau but. Il fait vraiment sa part du boulot, c'est assez propre. Il a un physique impressionnant, mais il fait pas trop de fautes. Et il faut quand même rappeler que c'est le frère cadet d'un autre Kenyan qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter Milan de José Mourinho. C'est le frère cadet de McDonald Mariga.
Ah oui.
Un joueur qui était rentré quelques minutes, je crois, en finale notamment. Et qui a eu une longue carrière en Serie A à Parme, à l'Inter. Donc il y a quand même, c'est une famille de champions. Bon, après, ça veut rien dire sur la suite. Mais je trouve qu'il est intéressant. Il revient en forme au bon moment. Et bon, les Arambi Stars, il sera peut-être un peu seul dans cette équipe. Mais c'est de bon augure quand même pour sa CAN aussi.
Allez, en un seul mot, votre pronostic pour le retour, ça passe pour l'Ajax ?
Moi, j'espère que ça sera l'Ajax en finale. Voilà, c'est plus.
D'accord. C'est au-delà de l'analyse, c'est plutôt un.
Pas pour le football que le football qu'ils pratiquent, oui. Voilà, très sincèrement.
Je partage cet avis, mais je vois un match quand même assez accroché au retour. Tottenham va vendre chèrement sa peau, à mon avis.
Bon, on espère se régaler peut-être un petit peu plus. On peut peut-être finir là-dessus sur un consensus. C'était peut-être pas forcément le match le plus excitant.
Moi, je suis pas déçu très sincèrement, Hugo, parce que pendant 30 minutes, quand même, l'Ajax a récité. Et j'ai vu des choses incroyables, des jeux en première intention, des feintes de corps. Donc je suis aussi resté là-dessus. Et puis vu ce qu'ils ont fait face au Real et à la Juve, en fait j'en ai encore plein les yeux.
Parfait, ce sera le mot de la fin. Ouais, en tout cas, l'intensité pour ce qui est du débriefing de cette demi-finale, allez encore un dernier mot de la fin.
L'intensité était supérieure à l'esthétique, mais on a quand même pris du plaisir parce que les deux équipes se sont battues vraiment crânement. Quoi. Donc c'était beau à voir.
Merci Patrick Juillard, merci Nabil Djellit, nos visiteurs du soir. Je vous le disais, à votre place était assis.
Vous faites dans le réalisme poétique, Hugo.
Exactement. À votre place était assis cet après-midi Joseph-Antoine Bell, la légende camerounaise. Gilles Verdet, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Chérif Guémour et Joseph-Antoine Bell, nous avons parlé Première Ligue, championnat espagnol, mais également de Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer un match en Ligue 1.
Hi guys, it's Raheem here. Sorry I can't make it down. You know, it's a lovely honour to win this award. You know, I just want to say a massive thank you.
It's a decent looking corner, Pickford didn't get it. Van Dijk did. Virgil van Dijk on debut.
It's unbelievable. Obviously, win this award, followed by all the players you play against, week in, week out, it's fantastic. I think it's the highest honour you can get. Really proud. So yeah, thank you very much.
Les Anglais ne font clairement jamais rien comme tout le monde. Ils n'ont pas un seul meilleur joueur de la saison. Ils ont deux meilleurs joueurs de la saison. L'un désigné par les journalistes, l'autre désigné par les autres joueurs. Am I right? Est-ce que tout est bon? Raheem Sterling a été désigné meilleur joueur de la saison par les journalistes. Mmh. C'est Virgil van Dijk, le meilleur joueur selon les autres joueurs. Sterling, il joue à City. Van Dijk, il joue à Liverpool. Ça tombe bien. City est en tête, 92 points. Une unité de plus que Liverpool à trois journées de la fin. Ce sont les deux équipes qui vont se disputer le titre. Ce week-end, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Succès des Reds face à Huddersfield, 5-0. Les buteurs Keita, Mané, Salah. Bon, vous dites qu'il ne faut pas forcément pointer du doigt uniquement les joueurs africains parce qu'ils sont africains, mais Liverpool est quand même un club qui met en valeur le football africain. Vous me l'accorderez, ça, Joseph Fontanel.
Oui, on peut toujours, après, aller dire cela. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que Liverpool a de bons joueurs. Voilà. Keita, Sané et Salah sont de très, très, très bons joueurs. Et donc, on est content de les voir ainsi. On est content de les voir à Liverpool et de voir ce qu'ils apportent.
Et on les verra à la CAN.
On les verra à la CAN. Et une CAN en fin de saison, ça veut dire qu'on les verra dans de meilleures conditions. Et voilà.
Espérons. Victoire 1-0 également ce week-end de City à Burnley. But d'Aguero à la 63e. Qu'est-ce qui se passe, Gilbert? Vous levez la main de manière...
Je suis dépité, désabusé et en colère.
Contre moi?
Pas contre vous, contre certains journalistes, anglais notamment.
De pas avoir voté pour
Mané. Et certains techniciens. Mais c'est non seulement une hérésie, une absurdité, je dirais même, vous m'excuserez, que c'est une insulte à l'histoire. Parce que comment on peut ne pas couronner Sadio Mané après la saison qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être couronné? Marquer 67 buts, peut-être qu'il sera champion, peut-être pas. C'est eux aussi qui votent avant que la saison soit terminée. Donc là, ils sont pris à leur propre piège. Mais comment on ne peut... Comment on peut ne pas lui accorder au moins une des deux couronnes, celle des journalistes parce ou celle des joueurs? C'est absurde, absurde.
Parce que non, pas totalement. Parce que en fait,
pas totalement.
Est-ce que je peux juste vous donner une statistique qui va peut-être vous faire réfléchir? Aucun joueur n'a réussi à dribbler Virgil van Dijk en 36 rencontres de Première Ligue cette saison. Est-ce que vous ne la trouvez pas un tout petit peu vertigineuse quand même cette statistique?
Non mais pour Van Dijk, le titre il est largement mérité. Ça. Il est juste monstrueux. C'est le joueur qui a transfiguré Liverpool, qui en a fait d'un candidat aux quatre premières places de Première Ligue à un candidat au titre. Et il a vraiment consolidé cette défense. Et vraiment, il a tout changé à Liverpool. Son apport est juste énorme depuis un an et demi. Ouais. Et donc Van Dijk, il n'y a pas de contestation. Sur Sterling, il peut y avoir débat parce qu'effectivement Mané fait une saison exceptionnelle. Après, il faut rappeler que le trophée donc de l'association des journalistes britanniques englobe davantage que le sportif. Il y a aussi l'attitude du joueur en dehors du terrain. Il y a aussi ses performances en sélection.
Effectivement,
c'est plus Sterling.
Chauvin. C'est plus Chauvin.
Non, c'est pas
forcément.
Ça.
Pas forcément. Il y a vraiment l'homme qui passe au-delà du, enfin, qui va également à côté du footballeur. Et Sterling, il s'est illustré cette saison en dehors du football, notamment son engagement contre le racisme, son engagement, là il vient d'inviter 500 gamins à la finale de la Cup. C'est quelqu'un qui est en train de se révéler depuis un an, qui a été très critiqué en Angleterre et qui se révèle, qui s'engage, et ça c'est intéressant, c'est important en Angleterre.
Chérif Guémour.
C'est très très important dans le football anglais, notamment vis-à-vis des médias. Chaque année il y a des espoirs nouveaux qui arrivent, en général c'est des attaquants. On mise énormément sur eux, à la fois dans leur club et puis au niveau de la sélection. Il y a une époque, c'était Rooney. Quand Rooney est arrivé, il a tout cassé avec Everton. On s'est dit, est-ce qu'on tient enfin une petite merveille, mais qui va durer? Parce que les petites merveilles, on en voit défiler tous les ans, surtout des attaquants. C'était le cas de Sterling. Moi, quand je suis arrivé, je pensais un peu comme tout le monde, y compris les journalistes anglais. Que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va rester sérieux et atteindre le niveau qu'on lui prédit? Ou alors il va se perdre?
Finalement, surtout qu'il avait été vendu très cher, très jeune, 18 ans, 50 millions d'euros. Que ce
beaucoup de frasques, beaucoup de sorties de piste un peu. Tu vois. Et finalement, il a confirmé...
Mais aussi des polémiques un peu injustes. Je me souviens d'un tatouage où il avait été mal interprété.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est... Moi, j'avais quelques doutes, ne serait-ce que sur le footballeur, le joueur, le buteur. Personnellement, il m'a pas mal convaincu, aussi bien en club qu'en sélection. Mmh. Et en sélection, il est en train de faire son trou. Et avec une sélection qui est en train de prendre vraiment, vraiment son essor. Donc, quelque part, je suis relativement d'accord. Mais, dommage pour Sané.
Je vais juste calmer en disant que dans la caste des
Joseph
meilleurs...
Joseph Fontoine, ça fait des années qu'il essaie de me calmer, et il réussit, lui.
dans la caste des meilleurs, malheureusement, on ne peut pas en avoir qu'un seul. C'est comme lorsque, moi j'ai connu ça, vous êtes un très grand gardien de but, sauf que la nature vous en a envoyé un autre. Donc on ne joue pas avec deux gardiens de but.
Vous parlez d'une rivalité en sélection
camerounaise. Donc finalement, oui, il y en a un qui joue, l'autre sera remplaçant. Et ce jour-là, ceux qui adorent l'un peuvent être très tristes, mais en réalité, ils ont tort, parce que celui qui joue est absolument aussi bon. Donc là, on est désolé pour Mané, on est déçu, mais ceux qui ont eu le titre le méritent autant que lui. Ça aurait pu être lui, on aurait pleuré pour les autres. Donc là, je crois qu'effectivement, Mané est en train de faire une grande, grande saison, mais...
C'est ça, moi je trouve que ça, c'est déjà bien qu'on parle de lui à ce niveau-là, voilà, parce que ça récompense vraiment sa saison, il est exceptionnel.
Et sachant que Salah n'a pas été...
Aussi, il doit continuer, il ne va pas s'arrêter là.
Non, mais sauf qu'on parlait d'exemplarité du joueur et aussi de l'homme. Pourquoi il est tant apprécié en Afrique, au Sénégal particulièrement, dans toute l'Afrique et dans toute l'Europe? Parce que lui n'a pas le côté fantasque que certains attaquants peuvent avoir. Il est hyper rigoureux. C'est quelqu'un d'exemplaire au niveau du comportement. Donc, quand on me dit qu'on vote aussi pour un homme, il réunissait toutes les qualités. Il cochait toutes les cases. Mmh. C'est pour ça que j'ai tenté de m'insurger avant que Joseph Antoine ne fasse entendre.
Les engagements, Joseph Antoine, j'ouvre une petite parenthèse. Les engagements dont parlait Bruno contre le racisme, est-ce que ça vous touche particulièrement qu'un joueur prenne position sur un problème aussi grave et malheureusement encore présent et encore récurrent?
Logiquement, ça touche tout le monde. Mais il ne faut pas dire qu'un joueur prenne position, qu'un homme prennent position. Moi, ce que je voulais et ce que j'aime, c'est que les gens sachent qu'avant d'être joueur, on est des hommes comme tout le monde et qu'à ce titre-là, il faut se révéler, il faut montrer qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Donc, si vous ne vous indignez pas face à une injustice, c'est pas parce que vous êtes footballeur ou parce que vous êtes menuisier. C'est que vous êtes un homme un petit peu incomplet. Donc, voilà. Donc, on est content parce que là, les footballeurs, ce sont des hommes publics. Et de découvrir qu'à côté du ballon, ils savent s'indigner devant une injustice, ils savent être solidaires d'une vulnérabilité. Ça, c'est, je crois que c'est ça qui touche les gens. Et il ne faut pas faire comme si c'était spécifique aux footballeurs. On est content qu'un menuisier ait la même attitude qu'un journaliste, qu'un ceci ou cela.
Donc c'est une attitude d'homme.
C'est une attitude d'homme qui est valorisée et c'est très bien.
Et c'est très bien comme ça. Bruno, l'heure tourne, on ne va pas avoir beaucoup de temps de s'étaler sur le sujet. Le succès 1-0 de City à Burnley, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'était pas le dernier test pour City? Est-ce que c'était pas le dernier obstacle à franchir pour les Citizens? Il reste 3 journées. Est-ce que selon vous, le championnat est plié ou bien non? On va trembler ou vibrer plutôt jusqu'à la fin.
C'est ce qu'on disait. On disait que le dernier obstacle pouvait être Burnley parce que c'est compliqué d'aller gagner à Turf Moor parce que c'est une équipe qui est compacte, qui défend en bloc, pour pas dire qui défend à 10 derrière parce qu'elle sait aussi attaquer. Et ça a été compliqué pour City, donc ça s'est vérifié, même s'ils ont eu un pénalty refusé et que dans l'ensemble, ils ont largement dominé et que Burnley n'a pas cadré une seule frappe. Donc on peut estimer que c'est logique que City s'impose. Mais il y en a un autre qui arrive derrière, qu'on n'avait peut-être pas vu venir, qui s'appelle Leicester, qui est entraîné par un entraîneur, un coach, un manager, Brendan Rodgers, ancien de Liverpool. Il avait perdu le titre avec les Reds en 2014. La fameuse glissade de Steven Gerrard. Il avait perdu face à Manchester City. Et Leicester est le prochain adversaire de City à l'Etihad Stadium. Et c'est une équipe qui réussit plutôt bien face aux gros. Ils viennent de battre Arsenal. Ils ont tenu en échec Liverpool à Anfield. Ils ont battu Manchester City cette saison à Leicester. C'est peut-être l'équipe qui peut faire trébucher les Citizens.
Alors, il reste 3 journées de Première Ligue, 3 matchs en championnat d'Angleterre. Pour Liverpool, 2. Effectivement, 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3. C'est parce qu'il reste 3 matchs à Manchester City avec la finale de la Cup, c'est ça, contre Watford. Donc, effectivement, 2 journées de la fin. Faites bien de me corriger. Il reste également une autre échéance d'importance pour Liverpool. Évidemment, une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre le Barça. Et justement, on va parler du Barça.
Suárez, de zurda. Pedía mano, Vidal en el área. Para Leo, Messi. Gol.
Vous faites résonner l'hymne du Barça dans ce studio. qu'il accourt aussi vite qu'il le peut, Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour.
Vous avez fait votre apparition, c'était totalement inattendu.
C'était Messi filant vers le but.
Messi qui a offert un nouveau titre de champion au Barça, c'était ce samedi, à 3 journées de la fin, là, cette fois en Liga, là, je ne me suis pas trompé. Victoire 1-0 face à Levante, c'était juste ce qu'il fallait pour remporter la 26e Liga de l'histoire du FC Barcelone. 8 titres sur les 11 dernières saisons de Liga, 8 titres de champion. Je vais les donner, allez, rapidement. 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2018, 2019. C'est assez incroyable. On rappelle quand même au passage que le Real Madrid joue également la Liga. L'Atlético de Madrid dispute également ce championnat. Et pourtant, il n'y en a que pour le Barça. C'est comment vous l'expliquez ? Parce que les entraîneurs ne sont pas les mêmes, les joueurs ne sont plus les mêmes, et pourtant la Liga, elle est quasiment tout le temps pour le Barça.
Oui, mais c'est pas un hasard si on dit justement les 11 dernières saisons. Pourquoi les 11 ? Parce que ça correspond à l'arrivée à Barcelone comme entraîneur de Pep Guardiola, et c'est vrai que on peut penser qu'on est toujours dans un cycle qui a commencé avec lui, un cycle qui a permis au Barça de retrouver un peu ses racines, de partir d'une génération assez exceptionnelle formée à la Masia, le centre de formation de Barcelone. Et puis, malgré les aléas, les changements d'entraîneurs, les déceptions, parce qu'il y en a eu, il y a eu une constante qui a été mettre la qualité du jeu devant tout le reste et en même temps une équipe extrêmement compétitive, extrêmement ambitieuse, avec comme fil conducteur, bien sûr, Lionel Messi qui a gagné 10 titres nationaux avec Barcelone.
Donc
déjà,
il y a une vraie cohérence entre tous ces Barça, malgré que Guardiola ne soit pas là, par exemple. Ne soit plus là.
C'est vrai que les styles ont un peu changé, parce qu'il n'y a plus Iniesta, il n'y a plus Xavi, les joueurs ont changé. Aujourd'hui, on a un Barça peut-être un petit peu moins étincelant, mais beaucoup plus équilibré, qui défend bien et qui arrive quand même à emballer les matchs quand il le faut. Un Barça plus réaliste, peut-être un peu plus froid, mais qui est toujours quand même très, très efficace.
C'est quand même surprenant, non ? Ça ne vous surprend pas un peu cette domination outrageuse du Barça en championnat, alors que le Real a dominé outrageusement la Ligue des Champions
voilà,
dans le
exactement.
Même temps.
Mais vous avez tout dit. Si vous prenez sur quelques coups, vous pouviez avoir, pas celui de cette année, mais le Real Madrid supérieur grâce à sa détermination, Zidane, Ronaldo. Mais sur la régularité, sur une saison, sur un nombre de plusieurs dizaines de matchs de championnat, avec cette structuration du Barça, sauf quand l'Atlético fait une saison de rêve, ils sont injouables pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pense que vous les mettriez en Angleterre, ils seraient champions. C'est trop régulier. Messi est trop fort. 34 buts, 15 passes. Vous aviez Neymar. Maintenant, vous avez Dembélé ou d'autres. Vous avez toujours Suarez qui marque un nombre de buts considérable. Il en est encore à 21, là, 6 passes. Donc, en championnat, pour moi, cette équipe, sur une régularité, elle est totalement injouable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. La régularité, c'est moins clinquant, peut-être, qu'un parcours héroïque en coupe, en Ligue des Champions, comme ceux du Real ces derniers temps. Non, ça peut paraître plus ennuyeux de reporter le championnat, mais la régularité, quand on est sportif de haut niveau, Joseph-Antoine Bell, c'est ce qui est le plus dur, non ?
Mais quand on disait tout à l'heure pour Mané, s'il ne gagne pas cette année, il ne faut pas se dire c'est cette année ou pas quand on a 22, 23 ou 24 ans, non ? Il faut être régulier. Bon, je ne l'ai pas gagné cette année parce que quelqu'un m'a devancé d'un demi-point. L'année prochaine, si j'y suis toujours, ben, je vais gagner. Donc là, le Barça, c'est exactement ça, ils sont réguliers. Mais je crois que les ingrédients et le principal, c'est dans la conception même, dès le départ, de dire « on joue pour le public ». Donc, il faut un football positif. On gagnera plus souvent qu'on ne perdra. Et aujourd'hui, cette idée-là est arrivée à maturité à Barcelone, qui fait qu'ils ont toujours envie de bien jouer. Ils ont l'obligation de bien jouer. Et ils ont découvert, tout le monde a découvert le plaisir qu'il y a à bien jouer. Parce que souvent, les joueurs et leurs entraîneurs oublient que quand vous jouez mal, vous courez quand même 90 minutes.
Donc ça peut être fatigant aussi de jouer mal. Et Chérif Guémour, je vais tomber un peu dans un raccourci, mais derrière le Barça, de ces dernières années, de cette dernière décennie, il y a aussi l'ombre de Johan Cruyff comme derrière le projet de l'Ajax, ça doit quand même vous faire plaisir, ces constats, non pas d'échec, oui. Mais plutôt de réussite. Non, c'est du folklore, c'est... J'extrapole un peu.
Non, il y a une filiation authentique. Guardiola s'est toujours réclamé de l'héritage de Johan Cruyff, mais... par rapport à tout ce qui a été dit, oui, je suis d'accord, il y a une régularité assez impressionnante. Il ne faut pas oublier que c'est que des internationaux, que dès que les matchs de Liga sont finis, ils s'éparpillent aux quatre continents parce que, justement, ils retrouvent un tel le Brésil, un tel l'Uruguay. Et donc, c'est les joueurs qui sont très, 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 très sollicités. Ils maintiennent toujours le même degré d'exigence. En même temps, on a cité les titres, mais il y a quand même trois Ligues des Champions. Donc, il y a un
nombre impressionnant de Coupes d'Espagne. Ouais. Parce que
ils peuvent la gagner encore cette saison, en finale, à venir contre Valence.
Donc, voilà, c'est impressionnant. Mais quelque part, on en revient toujours à la même chose. Et là, je rejoins ce que dit notre ami. C'est aussi l'identité de jeu qui fait que quand l'identité de jeu elle est placée, on n'a plus de problème existentiel. On ne court plus dans le vide. Parce que c'est aussi ça. On n'est plus dans la possession de Guardiola, qui fait que on mène très vite au score et puis ensuite on empile les buts et on garde le ballon. Il y a toujours quand même une maîtrise tactique. Il y a une vraie identité de jeu. Et quand on a une identité de jeu, on se fatigue moins psychologiquement et moins physiquement. Ouais, pourquoi Messi dure aussi longtemps? C'est parce qu'évidemment c'est un surdoué, mais parce que lui est tout autour. Rakitic aussi, mais après il y a un peu de fatigue, c'est normal. Mais tout simplement, c'est comme c'est une équipe qui est bien en place, qui n'a pas besoin de multiplier les courses, de courir dans le vide ou quoi que ce soit, il s'économise aussi. Une fois de plus, on ne le soulignera jamais assez. Bien jouer, c'est aussi s'économiser, c'est aussi durer.
Mais c'est en résonance à ce que disait
C'est aussi la principale différence entre le Real et le Barça. Il y a une équipe qui est construite sur l'éducation, sur la formation, sur l'idée du collectif, alors que le Real, c'est quoi? C'est un club de stars. Et que tout passe par recruter les nouvelles stars. Et Florentino Pérez, il mise tout sur ça. À chaque fois, avoir la dernière star dans son équipe.
Le Barça a acheté des stars aussi. Oui, mais
il y en a eu. La politique de Real Madrid passe par les stars. Il faut acheter des stars pour faire plaisir au public.
Mais quand ça marche.
Et c'était Cristiano Ronaldo. Et cet été, ça sera Eden Hazard pour reconstruire et d'autres. Parce qu'il faut ça au Real. Il n'y a pas d'idée forcément du collectif. Et on l'a vu, les trois dernières Ligues des Champions du Real Madrid avec Zidane, dans le jeu. En championnat, c'était très moyen.
Ah, mais c'est de la Chine.
Je trouve qu'il y a un côté un peu réducteur à dire. Par exemple, le Real achète les Galactiques, le Barça forme les Galactiques. Avant de vendre grassement Neymar, le Barça l'avait acheté. Donc je suis d'accord avec vous, ils ont quand même acheté des stars. Il y a un budget qui est énorme.
Il avait acheté très jeune et été assez largement façonné.
Absolument, ils repèrent très bien. Ils ont des bons scouts, ils savent très bien quel très bon joueur acheter pour entrer dans leur effectif et adopter leur plan de jeu. Mais il y a aussi des échecs en matière de recrutement au Barça parfois.
Oui, bien sûr.
Rapidement, derrière Messi, derrière les stars, quelques hommes du titre.
Je pense qu'il faut surtout souligner que Barcelone a aussi un excellent gardien. Qui est Ter Stegen, peut-être le meilleur du monde aujourd'hui.
Le deuxième.
Et puis une défense qui tient vraiment la route avec un piqué qui n'a jamais été aussi bon, aussi solide derrière. Ouais. Et maintenant qu'il a quitté l'équipe d'Espagne, ça lui permet de se concentrer vraiment là-dessus. L'anglais qui s'est fort bien adapté à ça. Et puis Jordi Alba à gauche, Semedo ou Sergio Roberto à droite, c'est très solide.
Merci, Alejandro Valente, d'être passé rapidement nous parler du Barça, c'était la moindre des choses. Les 5 dernières minutes de l'émission, on va revenir sur un événement ce week-end en Ligue 1.
Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre? On a parlé de vocation pour vous. Vous aimez vraiment beaucoup le football?
Oui, j'aime le football.
Vous avez déjà joué?
Oui.
Avec des garçons?
Avec des gosses de la rue, disons.
Alors, comment vous est venue la vocation pour l'arbitrage?
Mais c'était la seule manière de participer au jeu, alors je suis devenue arbitre.
Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous de diriger des hommes sur un terrain? Est-ce qu'ils vous obéissent bien?
Oui, bien sûr, ils obéissent toujours. De toute façon, l'arbitre est le seul maître sur le terrain.
À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille de faire de s'adonner à cette activité et...
Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres.
Vous espérez vous marier un jour?
Oui.
Et vous pensez que si vous étiez mariée, vous arbitreriez quand même?
Oui, pourquoi pas.
Oui, après tout, pourquoi pas.
Alors ça s'est pas passé ce week-end, ça s'est passé il y a beaucoup plus longtemps, une archive INA qui remonte qui date de 1967. Ce week-end, on a parcouru pas mal de chemin de 1967 à ce week-end et la 34e journée de Ligue 1. Stéphanie Frappard, 35 ans, a arbitré la rencontre entre Amiens et Strasbourg, rencontre donc du championnat de France de première division. 0-0 au score final. Stéphanie Frappard, 35 ans, première femme arbitre dans un match de Ligue 1, sous vos yeux. Chérif Guémour, vous étiez
à
Amiens. Vous avez donc assisté à une première historique et ça s'est très bien passé.
Ça s'est très bien passé, elle s'est fait respecter. D'abord, elle était un beau maillot orange. Donc ça force le respect. Non, je plaisante. Elle a su intervenir quand il le fallait. Non, mais le propre d'un bon arbitre, c'est de ne pas se faire remarquer. Donc voilà, elle ne s'est pas fait remarquer. Elle n'a pas sorti des cartons jaunes intempestifs. Les joueurs l'ont respectée parce qu'elle était près de l'action. Physiquement, on s'était posé la question parce que c'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser pour les vraies compétitions quand même des champions où ça va vraiment à 100 à l'heure. C'était pas une rencontre exceptionnelle.
La Ligue 1, ça va pas à 2 à l'heure non plus.
Non, mais c'est un match très fermé. Il y a 0-0. J'y étais. Malgré tout le respect pour les deux équipes, c'était une purge. Hein. Donc voilà. Vaut mieux commencer par
une purge.
Bah oui, j'y étais.
Oui, mais c'est un match qui est en train de se
faire. On m'a réveillé à 3 reprises. Non, je plaisante. Et donc voilà, elle a fait preuve d'autorité, de compétence. Et puis voilà quoi, elle s'est pas fait remarquer. Mais surtout, elle est intervenue au bon moment. Par exemple, quand ça commençait un peu à s'énerver, des chocs et tout, elle était là présente et voilà, du regard, elle s'est fait respecter. Et puis c'est tout ce qu'on peut dire.
Elle avait déjà officié en Ligue 2 chez les hommes.
Ouais.
Et elle arbitra des rencontres de la Coupe du Monde féminine à venir en France.
Gilles. Mais en écoutant votre archive de 1967, là, une réflexion me venait parce qu'on vient de très très loin. Même si on ne prend pas 67, on prend avant la Coupe du Monde 98 et à 25 ans, il y avait très peu de femmes dans le foot en général. Les femmes journalistes dans le foot étaient carrément exclues. Les femmes patronnes, comme aujourd'hui il y a quelqu'un à la tête de la Ligue, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de femmes dans le foot. Le foot féminin était balbutiant. Donc on revient de très loin. Donc,
pourquoi on vient de très loin? C'est une évolution?
Non, on vient de très loin, il n'y avait pas de femmes dans le foot.
Donc en 1967, on a évolué.
Ah, le foot était machiste, shérif.
Il y en a une, c'est pas.
Mais oui,
Nelly Viennot dans les années 90-2000.
Nelly Viennot. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de femmes dans le foot. Donc l'avènement des femmes, il est merveilleux, il est tardif, mais il était temps quand même.
Il y avait des femmes journalistes.
Très peu, Marianne
Macron. Voilà, j'ai connu Frédéric Galametz.
Les choses.
Marseille, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais...
Hélène Foxenet.
Allez, en 30 secondes, je vais vous donner le mot de la fin. Vous disiez qu'il ne faut pas avoir les joueurs africains comme des joueurs africains, mais des joueurs tout court. J'ai envie de dire pour les arbitres féminins ou les femmes qui vont œuvrer dans le monde du football.
Ce que les joueurs veulent, et le public probablement aussi, c'est simplement quelqu'un qui sait interpréter les règlements et qui vous les applique au bon moment. Vous n'avez rien à dire quand c'est fait. Autrefois, les joueurs n'apprenaient pas vraiment le règlement, ils apprenaient sur le tas. Aujourd'hui, je pense que tout le monde apprend le règlement. Donc, on sait reconnaître celui qui l'applique bien. Et puis voilà, bravo à elle, mais ça va devenir courant.
La voix de la sagesse, celle de Joseph Antoine Bell, la légende camerounaise, consultant de RFI que vous pourrez écouter bien sûr lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à suivre sur la radio du monde. Il était en visite chez nous, il était aux côtés cet après-midi de Gilles Verdez, Chérif Guémour et Bruno Constant. Merci à eux, merci également à Patrick Juliard et Nabil Djellit, les visiteurs du soir. Cette fois, ils sont revenus tout à l'heure sur le succès de l'Ajax Amsterdam sur le terrain de Tottenham, 1-0 en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Elle n'en finit plus d'étonner, cette équipe néerlandaise. Elle a un pied en finale de la Ligue des Champions. Personne ne l'avait vu venir au début de la compétition en septembre dernier. Demain à suivre le deuxième. La deuxième de ces demi-finales, allez, Barça-Liverpool, quelle affiche, le duel entre les favoris. Le coup d'envoi du match est à 19h, temps universel. Radio Foot vous présentera évidemment cette affiche à 15h10, temps universel. Et puis, un peu comme aujourd'hui, on reviendra sur cette rencontre aux alentours de 21h10 en direct. Soyez là à 21h10, temps universel. Merci à Laurent Salerno, merci à David Finzel qui ont veillé très tard pour que Radio Foot revienne en direct. Ciao, à demain.